Alors, c'est la question qui me vient. Là. À quel moment vous êtes mis à composer Fractali? J'ai cru comprendre que c'était pendant le confinement.
Sí, la primera pregunta que le pasa por la cabeza es ¿cuándo empezaste a pensar en Fractalis? ¿Durante el confinamiento? Hemos entendido que ha sido durante el confinamiento, pero ¿cuándo?
Un poco antes, un poquito antes del confinamiento, un poco antes del confinamiento. Un poco antes, porque el encargo fue antes, y ya tenía más o menos la idea de los movimientos que tienen que ver con la naturaleza. Lo que no tenía muy claro eran los movimientos lentos. Y eso sí tuvo que ver mucho con el confinamiento.
Entonces, pues, c'était avant, parce qu'il avait quand même déjà la commande a été déjà, ils ont déjà demandé de Fractalis, donc les mouvements qui avaient un lien avec la nature, elle le savait déjà, mais c'est pendant le confinement qu'elle a commencé à créer plutôt les mouvements lents.
Qui semble le mouvement le plus difficile à mettre en place.
Que sont los más difíciles, ¿no? Los lentos.
Sí, yo creo que, bueno, son difíciles, sobre todo que me parece que el segundo movimiento, mantra, es difícil porque rítmicamente son ritmos muy irregulares.
El deuxième mouvement, mantra, c'est peut-être le plus compliqué parce que c'est des rythmes les plus irréguliers.
Porque yo lo que quería en mantra, o la idea que tengo para ese movimiento, es como una especie de caída de gotas de agua. Y esa caída nunca es regular en la naturaleza. No.
L'idée qui inspire mantra, c'est plutôt la tombée des gouttes d'eau. Et comme c'est toujours irrégulier dans la nature, c'est ça qui est le plus compliqué.
Donc l'irrégularité rythmique est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, qui vous passionne?
La irregularidad rítmica es algo que le interesa muchísimo, que la apasiona.
Me gusta mucho la irregularidad dentro del contraste con lo regular o con el pulso. Me parece que en ese sentido me acerco mucho a Stravinsky. Stravinsky nunca hace frases regulares.
Entonces, es plutôt les rapports de force avec le régulier et l'irrégulier avec le rythme. Et c'est ça peut-être qui le rapproche un peu plus de Stravinsky, qui joue beaucoup avec ces mélanges.
Et l'importance de Stravinsky a donc été un point essentiel dans votre travail de compositrice. Est-ce que c'est un compositeur, parce que vous citez Stravinsky, on pourrait citer par opposition Schoenberg.
Stravinsky est un des compositeurs claves dans sa composition. O también hay otros como por ejemplo
Schoenberg.
Mira, hay yo creo que tengo muchos, todos tenemos modelos y todos tenemos compositores a los que nos identificamos y que amamos, ¿no? Por supuesto que está Stravinsky y está Bartók. Ellos son dos, para mí son dos compositores muy importantes, porque efectivamente sí tengo esa, me identifico mucho con ellos en términos rítmicos, pero también en términos estéticos. O sea, a mí me parece que tanto Bartók como Stravinsky tienen estas raíces que tienen que ver con sus orígenes y con su cultura, pero la llevan a un nivel bastante personal y bastante elaborado. Y eso es algo que yo he tratado de hacer, o sea, no perder la raíz de ser un compositor latinoamericano, pero por otro lado, también tener retos musicales importantes y significativos y no quedarme nada más en la parte literal.
Entonces, c'est vraiment deux compositeurs qui inspirent énormément, mais il y en a d'autres, on a énormément de modèles, mais ces deux-là, bien sûr, sont deux très importants. C'est surtout leur rapport avec la culture et leur origine aussi. Qui semble important dans cette inspiration, et surtout ne pas perdre les racines. Et donc c'est ça aussi qui inspire de ces deux compositeurs.
Et c'était Bartók aussi. Là vous choisissez un concerto qui est toujours très étrange. Il y a quand même une cadence du concerto, hein. Il y a de la cadence, mais en même temps le concerto, le piano est dans l'orchestre. Il fait partie de l'orchestre.
Absolument. Si, si. Yo creo que esto es un concierto, a mí me interesaba mucho que de pronto hay partes muy protagónicas y muy solistas del piano, pero también me gusta la idea de que el piano pertenece a la orquesta y que la orquesta y el piano son un todo, ¿no? Y me interesaba sobre todo también la participación de la orquesta, no solamente en términos de color orquestal, sino también en términos de establecer un diálogo y un discurso complejo con el solista. O sea, la orquesta también es difícil, es una parte difícil, y no solamente acompañar, ¿no? Yo creo que juega un papel más importante.
Donc, normalement, le piano, il est le protagoniste, mais le piano appartient à l'orchestre, l'orchestre au piano, il y a un dialogue qui est aussi très important, il y a des parties très importantes solistes du piano, mais l'orchestre aussi, elle fait partie et elle est essentielle, elle est fondamentale.
Oui, c'est ce qu'on a au début de Mantra, avec l'articulation de la harpe et du xylophone, et puis du crotal. On voit bien qu'il y avait une idée de les rassembler, presque. Alors évidemment, c'est difficile dans un orchestre comme ça, donc il y a le jeu de la distance, et comment il faut arriver à concilier cette contrainte.
Lo vemos al principio Mantra, ¿no? Este juego en el arpa y el xilófono, y es... esta distancia que al final lo quieren también, pues hay una distancia porque es difícil, pero no sé si ha intentado meterlos juntos o que haya una especie de que se junten ambos, aunque estén en sitios diferentes o aunque haya una distancia física.
Sí, en el caso del mantra hay varios planos sonoros, esto es muy importante.
Dans le cas de mantra, il y a plusieurs plans sonores.
Sí, un plano es el diálogo entre el xilófono, los crótalos y la parte aguda del piano. Evidentemente ese es un plano sonoro.
Il y a un plan qui a un dialogue entre le crotal, je ne sais pas si on dit comme
ça. Le crotal, crotal.
Voilà, et les parties aiguës, le xylophone. Donc ça c'est fondamental dans le premier dialogue.
Sí. Y pero por otro lado está la parte armónica que hace la orquesta. Que muchas veces esa parte armónica o la tienen los metales, la tienen los alientos o la tienen las cuerdas.
Donc il y a aussi la partie harmonique qui est très importante, que ce soit les métaux, soit les cordes. Los metales, las cuerdas
y los alientos, madera. Y
le
vous avez choisi comme titre fractal. Fractal renvoie à la figure du chaos.
Fractalis, que es el título, fractal, fractalis, que tiene una relación directa con el caos.
Yo creo que es un caos organizado, más bien. O sea, para mí los fractales es exactamente el opuesto. Lo que me interesaba de los fractales, sobre todo los fractales, no tanto a nivel matemático, más bien a nivel de la naturaleza y de las imágenes y de lo que la naturaleza me provoca.
C'est plutôt un chaos mais organisé. Et c'est un fractal qui renvoie plus à la nature mais pas au calcul mathématique.
Ah, tom.
Mais sí, me interesaba mucho más, por ejemplo, si nosotros observamos la naturaleza y observamos, por ejemplo, un cactus, está hecho de pequeños cactus chiquitos que se van juntando y hacen que este cactus sea más grande. Eso me interesaba replicarlo en la música.
C'était plutôt l'intérêt de faire une réplique de, par exemple, d'un cactus qui a des petits cactus et qui font tous ensemble le grand cactus. C'est ça qui intéressait plus, cette réplique dans la nature que dans le côté mathématique.
Et dans votre histoire de compositrice, comment vous êtes devenue compositrice?
Su historia de compositora.
Sí. Bueno, mis padres, mi mamá tocaba el piano, ¿no? Y además mis padres fundaron un grupo de música latinoamericana, de música folclórica. Ellos tocaron mucho el folclore, así que yo crecí escuchando esta música de niña y después comencé a estudiar el piano y muy pronto me di cuenta de que quería ser compositora. Y hablo de Bartók por eso, porque una maestra me enseñó el microcosmos de Béla Bartók y ahí hubo una conexión muy fuerte. Ahí me di cuenta, claro, porque Bartók abordaba la armonía de una manera distinta, porque había ritmos diferentes y de alguna manera me identifiqué con eso y empecé a hacer pequeñas piezas de piano muy inspiradas en Bartók.
Mes parents son... Bah, ils aimaient bien la musique. Ma mère était pianiste et j'ai grandi dans un contexte musical où j'entendais, depuis que j'étais toute petite, de la musique folklorique traditionnelle. Et après, j'ai étudié du piano. Et très tôt, j'ai eu une connexion avec Bartók, avec son microcosme et aussi cette connexion avec l'harmonie et les rythmes. Donc c'est depuis très très jeune que je me suis dit j'ai envie de devenir compositrice.
Et vous êtes passée par un conservatoire?
Oui. Si, yo estudié en el Conservatorio Nacional de Música de México. Estudié con Mario Lavista. Mario Lavista es un compositeur que à su vez fue alumno de Carlos Chávez.
Donc c'est le Conservatoire National du Mexique. Et j'ai étudié avec Mario Calista.
La Vista,
oui. Qui en même temps, il a été...
étudié, oui, Carlos Chávez, avec Carlos Chávez.
Carlos Chávez, oui, je l'ai connu, il est venu en France.
Uh-huh.
Il est venu en France, à Amiens, il y a quelques années, pour créer une œuvre.
Que vino hace algunos años para crear una obra.
Si,
donc
si,
je connais un peu son travail. Oui, et alors, dans ce contexte de la composition, de l'école de musique, ensuite vous avez été vers un cursus international.
Oui, en el contexto.
Sí, sí, sí. Después de eso me fui a Londres y ahí hice una maestría, Guildhall School of Music and Drama, con Robert Saxton. Y después hice un doctorado en la Universidad de Londres en electroacústica, en música electroacústica.
Mm-hmm. ¿Avec qui?
Simon Emerson.
Oui, donc après j'ai fait mon master à Londres et je travaille aussi, vous avez ma maestría, es un master.
Sí, un master.
Un master avec Robert Saxton.
Robert Saxton.
Mm-hmm. Et après un doctorat en électromusique.
De la musique
électronique. Alors on réussit à faire ce cursus et on arrive très bien à trouver sa place comme compositrice.
Logra hacer este recorrido, este curso y ¿encuentra su lugar como compositora?
He encontrado mi lugar, sobre todo, es interesante la pregunta y aquí sí me gustaría platicar un poco más.
Es muy interesante como cuestión, así que vamos a intentar aprofundizar un poco más.
Sí, porque esto me hace hablar del contexto de lo que es un compositor latinoamericano.
Es que eso me hace hablar del contexto. Sí. ¿Qué es un compositor latinoamericano?
Sí. Entonces, bueno, yo cuando regresé me incorporé a la Facultad de Música de la UNAM, de la Universidad Pública de México, de la Universidad Nacional.
Cuando yo entré, rentré en la Universidad
Nacional de México. Sí, yo soy profesor de là-bas. Entonces, bueno, esa parte la resolví, la parte económica la resolví.
Ça c'était fait, la partie économique, elle était déjà
résolue.
Pero la carrera para mí ha sido difícil.
Mais faire carrière, c'est ça qui était difficile.
Y sobre todo he encontrado, ha sido más fácil en Estados Unidos y ha sido más difícil en Europa.
C'était plus simple aux États-Unis et plus compliqué en Europe.
Sí, y lo que yo quisiera hablar sobre todo es que en Europa lo que encontré, sobre todo cuando viví en Inglaterra y cuando fui, por ejemplo, al curso de Darmstadt, encontré una idea estética muy cerrada de Europa.
Ce que j'ai trouvé en Angleterre et surtout avec Darmstadt.
Darmstadt.
Darmstadt, ajá.
Et j'ai trouvé une esthétique très fermée en Europe.
Que yo nunca me pude identificar con esa estética.
Je me suis pas identifiée avec cette esthétique.
Y es normal que no me identifique.
Mais c'est normal en fait que je...
Porque no soy europea.
Je ne suis pas européenne, donc.
De principio, yo soy mexicana. Mi contexto es completamente diferente.
Mon contexte est complètement différent. Je suis mexicaine.
¿Por qué me voy a identificar con Alemania?
Pourquoi je vais m'identifier avec l'Allemagne?
¿Por qué me voy a identificar con Lachenmann? No tengo nada que ver con Lachenmann.
J'ai rien à voir avec Lachenmann.
Y el problema es que las reglas las han dictado los europeos.
Et le problème c'est que les règles sont faites par les Européens.
Nosotros no hicimos las reglas, las han hecho en Europa.
Nous, on n'a pas fait les règles sont faites en Europe.
Y a mí me parece eso injusto.
Et ça me semble très injuste.
Porque siento que los europeos tienen el derecho a decidir qué está bien y qué está mal.
Parce que je sens que les Européens ont le droit de décider ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien.
Si tienes ritmo, no está bien.
Si t'as du rythme, c'est pas bien.
Eso es lo que yo sentí en Darmstadt.
C'est ce que j'aurais senti.
Si escribes un acorde mayor, no está bien.
Si t'as écrit un accord majeur, ce n'est pas bien.
Y llegó un punto en que dije, ¿por qué?
Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi?
No. Y creo que Estados Unidos es mucho más abierto porque no tienen esa tradición que se tiene en Europa.
Et je crois que les États-Unis, bah, ils sont plus ouverts parce qu'ils n'ont pas cette tradition que vous avez en Europe.
Lo mismo en Francia.
C'est la même chose.
Ilkan, espectralista, y si no eres de alguna de esas escuelas, entonces ¿cómo te ubicas en Francia?
Si tu n'es pas, si tu ne fais pas partie de cette école, de ces écoles,
de l'école de l'Ircam ou de l'espectralisme, alors
comment tu fais partie, comment tu rentres
à la France? Eso ha sido difícil para mí.
Et ça a été compliqué pour moi.
Otra cosa que ha sido difícil es que hay mucha falta de información sobre lo que es la música latinoamericana.
Ce qui était compliqué aussi, c'est qu'il y a un manque d'informations sur ce qui est vraiment
la musique latinoamericaine. Nosotros estudiamos Europa. Muy bien. Nous, y la estudiamos mucho.
On étudie l'Europe très bien et beaucoup.
Es lo que estudiamos en la facultad.
C'est ça que on étudie à l'université.
Pero Europa no estudia lo que sucede en Latinoamérica.
Mais c'est en Europe, on ne vous étudie pas ce qu'on fait en Amérique latine.
J'ai trouvé un livre. Encontré este libro sobre Paul Griffiths. Música since 1945. Y busqué Latinoamérica y lo que encontré fue conga, percussion instrument.
J'ai trouvé dans ce livre ce qui était la musique latino-américaine et ce que je trouvais c'était conga,
percussion instrument.
Et la percussion.
Si alguien así resume un continente en una conga.
Si quelqu'un comme ça peut résumer un continent sur une conga,
il n'y
a rien à dire de plus.
Eso es lo que he encontrado.
Comment définiriez-vous la tradition sud-américaine alors? Est-ce que vous pouvez la définir? Parce que effectivement, dire que l'Europe elle est hégémonique, bah oui, elle est hégémonique par son histoire, effectivement, mais vous existez puisque vous composez et vous avez une propre histoire. Et comment pourriez-vous définir votre histoire, ou du moins, quelle serait votre histoire pour vous, le regard, parce que là, on est dans un regard un peu ethnocentrique, celui, moi, je suis un Européen, j'entends parfaitement bien, je vois bien la différence qu'il y a entre la culture sud-américaine et la culture européenne. C'est vrai que nous, on est marqué par une évolution, effectivement, de l'Arenman ou du son spectral, mais vous avez fait l'électroacoustique, alors. L'école américaine en électroacoustique, elle est pas si éloignée de nous, je veux dire, en fait, comme on dit. Mais par le temps, c'est peut-être parce qu'on l'a exportée. Et la question que je voudrais savoir, c'est comment vous définisseriez, quelle est la caractéristique? Vous avez parlé du rythme comme élément, la couleur instrumentale, probablement aussi.
Es comprensible esa mirada no externa que se tiene de Latinoamérica y el contexto también y cómo se define desde Europa, porque somos europeos, entonces tenemos mucho más contactos, más vínculos con otros países europeos. Pero ¿cómo podría definir usted la Latinoamérica? ¿Cómo podría definir un poco esta corriente de electromúsica? Y sobre todo desde un punto de vista como latinoamericana.
Sí. Ese es otro problema que es interesante, porque yo creo que en Europa se trata de buscar un estereotipo de lo que es la música latinoamericana.
Ça c'est un autre problème parce que en Europe vous cherchez trouver le stéréotype latino-américain.
Y Latinoamérica es un continente enorme.
Y l'Amérique latine c'est un continent.
Sí, Sudamérica es Argentina, México es Norteamérica.
América del Sur es la Argentina y la América del Norte es México.
Entonces, la diversidad cultural es enorme. No se puede hablar solamente de una sola cosa en Latinoamérica. Hay cosas en común, sí las hay, pero también hay cosas que son muy diferentes.
Donc on ne peut pas parler d'une seule chose. Il y a des points en commun, mais on ne peut pas parler d'une seule chose parce que le continent il est tellement grand.
Es muy rico, por ejemplo,
¿no?
Simón es brasileña, no habla español, o sea, hay una gran diferencia entre yo ser mexicana y Simón ser brasileña.
¿No? Por ejemplo, el caso de Simón, él habla portugués, él habla même pas español, él es del mismo continente, y él, moi, je suis mexicaine, y entonces hay énormément de diferencias.
Sí, yo creo que Latinoamérica, y es algo que sucede a nivel global, hay una gran diversidad de lenguajes. Es difícil hablar de un solo lenguaje.
Y hay énormément de langages y una diversidad très très riche. Entonces, no debemos hablar que d'un solo langage.
Sí, hay muchos compositores, por ejemplo, que han trabajado con el espectralismo y que han estudiado en Francia. Muchísimos compositores mexicanos que han venido acá y que han adoptado esas técnicas. Hay compositores que trabajan la microtonalidad, hay compositores que trabajan la experimentación instrumental, hay compositores que trabajan mucho más los medios electroacústicos. O sea, yo creo que hay una gran apertura en ese sentido, que es lo que está sucediendo también a nivel global.
¿Compositores latinoamericanos?
Sí.
Il y a par exemple des compositeurs latino-américains qui ont travaillé le spectralisme, qui ont aussi travaillé les microtonalités et aussi énormément l'expérimentation et l'électroacoustique. Donc il y a une variété très.
Si, es muy variado el lenguaje.
Le langage il est très très varié.
Et le Mexique lui-même, sa formation se trouve aussi confrontée entre le continent nord-américain. parce que vous êtes très proche, vous, du continent nord-américain. Et est-ce que cette culture nord-américaine a une influence positive ou négative sur votre musique? Est-ce que vous réussissez à faire passer votre musique dans le continent nord-américain?
México está muy, muy cerca, ¿no?, del continente norteamericano, más bien de los Estados Unidos. O de los... Entonces, ¿esta influencia es positiva, negativa? ¿Busca pasar ese mensaje también al continente, a Norteamérica?
Yo creo que eso, hay las dos. Hay muchas cosas que son muy negativas y hay cosas también que son muy positivas. Yo creo que pasan las dos cosas. Es una relación muy compleja. Porque si hablamos, por ejemplo, de una ciudad como Los Ángeles...
Hay de cosas positivas y de cosas negativas, y es un rapport muy complejo. Por ejemplo, en una ciudad como Los Ángeles...
Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos después de la Ciudad de México.
Es la deuxième ville la plus, que a plus de mexicanos après Mexique.
Après le Mexique. O sea, estamos hablando de más de 10 millones de mexicanos.
Plus de 10 millones de mexicanos.
Entonces, es una relación muy compleja. Es muy complejo porque hablar de California es también hablar de México.
C'est complexe parce que parler de la Californie, c'est aussi parler du Mexique.
Sí. Yo creo que hay instituciones en Estados Unidos que están haciendo las cosas mejor que antes, o como una institución como es la Filarmónica de Los Ángeles, con la cual yo he trabajado mucho, con Gustavo Dudamel. Y lo que ellos están viendo es que es una orquesta que tiene que ver a su comunidad. Y en el momento en que tiene que integrar su comunidad, forzosamente está México ahí.
Donc il y a des institutions des États-Unis qui sont en train de faire les choses très bien, comme par exemple l'orchestre
de Los Ángeles, Filarmónica de Los Ángeles,
qui intègre aussi
Gusto Dudamel. Mais nous-mêmes, nous avons intégré Gusto Dudamel à l'Opéra Paris. C'est devenu le directeur musical de l'Opéra Paris.
Que a mí me parece una, bueno, yo siendo latinoamericana me parece que habla de una apertura que es necesaria.
Yo vamos aquí en César. Elle connaît, oui, elle est complètement d'accord à cette... Sí. On ouvre les portes, ça c'est nécessaire.
Yo soy de la idea de que las instituciones hoy tienen que tener en su agenda el tema de la diversidad, la equidad de género. Son cosas muy importantes. Si no, están fuera.
Donc, je pense vraiment que las instituciones doivent avoir comme sujet la diversité et aussi la équité du genre.
Quels sont vos projets musicaux? Là, il y a une création dans le contexte de l'Orchestre de Bretagne, l'Orchestre national de Bretagne, qui fait un programme sud-américain. Et la question que je me pose, c'est pour vous maintenant, plus exactement, sans question, quelles sont vos perspectives? Quels sont vos prochains projets musicaux qui sont en cours d'élaboration ou qui vont se construire?
Nos damos cuenta, ¿no?, que el mundo está todo mezclado. Y, por ejemplo, el ejemplo de este artista que está en París, que creía que estaba fuera, simplemente tenemos que coger un tren, ir allí y verlo. En este caso, sus perspectivas, los proyectos, la creación, ¿cuáles son?
Bueno, ahora de momento acabo de terminar dos piezas importantes. Acabo de terminar una comisión para la Filarmónica de Nueva York.
Maintenant, je viens de finir deux projets qui sont importants. Donc... Le premier, c'est pour la Philharmonica de
Nueva York. New York Philharmonic. Y acabo de terminar un concierto para violín, para esta violinista que es maravillosa, fantástica, que es María Dueñas, esta violinista española.
Et je viens de finir aussi un
concierto para violín.
C'est un concierto pour violon, pour la violinista María Dueñas.
Para la Filarmónica de Los Ángeles y Gustavo Dudamel.
Il serait créé avec l'orchestre de Damel.
Si.
Et en même temps, je voudrais revenir sur cette œuvre parce qu'on va avoir Fractalis. Moi, ce qui m'a surpris, c'est la très grande diversité dans votre écriture. Parce que vous parliez justement des cas spectrales, hein, vous avez des spectros, j'ai envie de dire, mais vous avez quand même, par votre savoir-faire, en fait fait quelque chose qui dépasse ou qui intègre des problématiques qui sont européennes, mais qui sont dans votre espace. C'est-à-dire que on entend bien dans votre orchestre cette grande diversité de modes d'écriture différents et qui sont eux-mêmes ouverts sur les influences européennes, mais qui s'apportent aussi, qui sait les intégrer. Voilà, ce que je voulais parler, ce qui m'a surpris, c'est la capacité d'intégration que vous avez des écritures.
Para volver a Fractalis, ¿no? Un poco hablar de esta diversidad que es que está en la escritura de la composición, que es el, que va más allá, no solo que va más allá de México, que va más allá de Europa, y que se integra bien esta capacidad de integración y de diversidad en la escritura, es algo que nos ha sorprendido.
Por supuesto, sí, entiendo la pregunta. Para mí la música en realidad no tendría que tener fronteras. ¿Por qué las tendría que haber?
Pour moi, en realidad, la música no debería haber de frontières. Pourquoi? Pourquoi une musique doit avoir une frontière?
Pienso mucho a veces en cómo trabaja un chef, ¿no? ¿Y por qué un chef, hoy acabo de comer un poisson con couscous y queso, yo pienso que c'était un fromage français. O sea, esa mezcla, ¿por qué no? O sea, era couscous con pescado, con una salsa francesa, ¿no? Si un chef cocina con aquello que se identifica y que le gusta, con ingredientes que le son afín y que puede combinarlos y hacer algo, yo pienso que el músico también tiene ese derecho.
Je réfléchis justement à la cuisine, à un chef qui est capable de mélanger, d'intégrer des ingrédients, par exemple couscous avec un poisson et la sauce française. Et pourquoi lui, il a la possibilité de faire tout ça et de l'intégrer dans ses plats et jouer avec ce qu'il aime bien? Pourquoi pas le faire la même chose avec la musique? Combiner les ingrédients, les variétés et jouer avec.
Et creo que aquí lo importante no es solamente el origen del material, evidentemente tiene que ver en cómo lo integras. Eso sí es difícil.
Y surtout, c'est pas l'origine ou la source de matériaux ou le matériel, c'est surtout comment on va les intégrer et comment on va les combiner. C'est ça qui est compliqué.
Et alors maintenant, pour finir un petit peu, la chef, comme on dit en France. En France, on dit chef pour dire une chef d'orchestre féminin. Et comment ça s'est fait la rencontre?
Et pour terminer, la jefa, parce qu'en français, tenemos el femenino, ¿no? Jefa de orquesta. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo la conoció? ¿Y cómo fue esta relación?
Bueno, la conocí aquí. Yo no la conocía anteriormente. Yo en eso estoy muy agradecida con la orquesta de Bretaña y muy agradecida con Marc Feldman. Primero por arriesgar y por abrir las puertas, ¿no?, a nuevos compositores, que justamente es lo que yo vengo diciendo, ¿no? Abrir esta perspectiva que para mí por lo menos es muy importante. Es un programa que efectivamente tiene compositores ya de la música latinoamericana consagrados, ¿no? Como Lecuona, son compositores del siglo XX, de principios del siglo XX, como Villalobos, obviamente, como Piazzolla. Pero también tiene compositores vivos, como Arturo Márquez, estoy yo, y está Esteban Bensecri, ¿no?
Entonces, j'ai rencontré ici. Donc, je remercie énormément cette possibilité de rencontrer cette chef. Parce que c'est grâce à ces risques qu'on a pris que on a pu faire la connaissance, on a pu travailler ensemble. Et c'est justement ça que je cherchais et que je dis tout le temps, c'est qu'il faut ouvrir. Donc il faut donner la possibilité de ces mélanges, de cet travail ensemble avec des nouveaux compositeurs, nouvelles compositrices. Et c'est très important. Ici, il y a des compositeurs qui sont déjà reconnus, mais il y a encore on travaille avec des compositeurs qui sont vivants.
Arturo Márquez y Esteban Bensecri, ¿no? Y entonces, eso a mí me parece importante y creo que sobre todo arriesgarse a encargar una obra nueva, ¿no? Yo sé que siempre es un riesgo, ¿no? Para la orquesta, para todos, ¿no? Porque es algo que nunca se ha escuchado antes, o sea, hoy yo escuché la obra por primera vez y ustedes también, ¿no?
Donc c'est plutôt ce qui me surprend, c'est aussi ce qui je remercie, le risque de commander une nouvelle pièce, une nouvelle œuvre que on a écouté aujourd'hui pour la première fois et que vous aussi vous avez écouté pour la première fois. Et donc c'est passer une commande sans savoir, c'est ça qui c'est prendre le risque, mais c'est ce que je remercie énormément.
Ben moi je vous remercie, Gabriel Ortiz.
Sí, gracias.
Ah, no, al contrario.